À Salis du Salat 94.1.
Et c'est avec ce moment de recueillement et de prière qu'on a un grand plaisir de se retrouver de 12h et 13h pour ce présent, ce midi. On va pas mal voyager encore dans ce présent puisque dans quelques instants, Anne-Rose et Jean Couvic nous proposent d'aller faire un tour à l'abbatiale, à l'abbaye de Tournaille où un événement se prépare autour du livre. Elle nous dit tout ça dans quelques instants avec son invité. Et puis on ira dans le Gers puisqu'on parlera d'un autre festival. C'est le festival Éclat de Voix qui célébrera en juillet prochain sa 29e édition. Elle sera donc pour nous parler de tout ça au micro de Patrick Duchiré, fondateur du festival. Et puis dans Un jour, un livre, un auteur, on ne partira pas dans un lieu, mais plutôt dans l'histoire. On va revenir en arrière sur deux livres qu'a sélectionné Philippe Loni sur un devoir de mémoire qu'il aime bien faire sur Radio Présence, sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On découvre tout ça donc dans quelques instants dans Un jour, un livre, un auteuil. Mais pour l'heure, je vous propose de partir tout simplement pour l'abbaye de Tournaille.
Radio Présence dans le Lauragais 97.9.
Bonjour Frère Martin.
Bonjour Anne-Rose.
Cette fois-ci, vous ne venez pas nous présenter un livre, mais vous venez nous parler d'un événement culturel lié à la lecture. Samedi, je lis à l'abbaye le 6 juin 2026. Les jardins de l'abbaye Notre-Dame de Tournaille s'ouvrent pour permettre au plus grand public possible de lire sur les bords de la Rosse. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée, Frère Martin ?
C'est une double idée. Elle est venue d'abord du quart d'heure de lecture nationale qui se passe au mois de mars et où souvent les conditions climatiques, parce que c'est un jour de travail en semaine, peu de gens viennent prendre un temps pour lire puisque le slogan c'est d'éteindre son portable 15 minutes et de prendre 15 minutes pour lire. Donc on a pensé qu'on pouvait faire ça à un autre moment. Et parce que j'entends au magasin ou à l'hôtellerie que les gens prennent beaucoup de plaisir, une grande joie à lire dans le jardin de l'abbaye. Donc, je me suis dit, invitons les gens pour redécouvrir la lecture, lecture religieuse, lecture d'un roman, de ce que vous avez envie de lire, et de venir prendre un temps de lecture dans un lieu plutôt calme, au bord de la rivière, et pour profiter de la joie de lire.
Voilà, c'est un cadre.
Et la partager.
Boisé, bucolique, avec cette rivière de la Rose, donc qui traverse, vraiment au pied de l'abbaye. Est-ce que derrière, il n'y a pas une envie de revenir aux racines de ce qu'étaient les abbayes autrefois, c'est-à-dire vraiment des lieux de culture? C'est aussi un petit peu ça, c'est redire que, à l'abbaye Notre-Dame de Tournaille, comme c'était le cas dans toutes les abbayes autrefois, on trouve de la nourriture spirituelle, mais aussi de la nourriture culturelle.
Oui, tout à fait. Mais les abbayes, c'était le lieu où on fabriquait les livres, copiait, où des artistes créaient leurs œuvres de statues, de peintures. Et il y avait beaucoup de gens qui travaillaient et qui n'étaient pas moines et qui gravitaient dans une abbaye. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut réellement ouvrir notre lieu pour que toute personne qui veut se poser, vivre un temps calme, et aujourd'hui, un temps calme avec des enfants, souvent c'est de prendre un livre, et donc vous êtes invité à venir avec votre livre ou découvrir notre librairie et trouver une idée de lecture originale qu'on vous proposera particulièrement pour ce jour-là.
Donc ce 6 juin, de 9h jusqu'à 18h à peu près.
Alors, de 9h à 18h, la librairie sera ouverte, évidemment, mais si on veut venir lire tôt, on peut venir lire, et on peut venir lire jusque tant qu'il fait jour. Simplement, c'est qu'évidemment, à partir de 18h30, la communauté est à l'office du soir, puis il y a le repas. Enfin, vers 20h, nous serons un petit peu là, mais vous pouvez venir lire dans le jardin de l'abbaye le soir si vous êtes disponible.
On investit vraiment le terrain de vie, de la vie monastique et des frères pendant toute cette journée de 9h à 18h pour pouvoir profiter du jardin et lire. Vous parlez de la librairie, Frère Martin, elle sera ouverte de 9h à 18h ce jour-là.
Presque, on fermera le temps de l'office de la prière de midi et du repas communautaire.
Alors, la publicité de cette journée du 6 juin, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'il y a à peu près 3 ans, cette librairie a pris un virage important, puisque autrefois on trouvait dans cette librairie des ouvrages principalement spirituels. Aujourd'hui, c'est vraiment une librairie à part entière. Ce virage, vous l'avez pris il y a 3 ans. Vous y travaillez beaucoup. Donc, ça veut dire que ce 6 juin, eh bien, le public qui viendra pourra trouver des livres spi, mais voilà, enfin, des textes de l'Église, du Pape, etc., mais aussi des romans,
voilà, une ouverture littéraire, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors, on le sait dans la chronique littéraire, hein, les livres et les romans que vous présentez, mais est-ce qu'on a une idée du nombre d'ouvrages qu'il y a? Est-ce que vous pouvez nous donner...
Les ouvrages, je ne les compte pas, mais c'est vrai que beaucoup d'éditeurs religieux, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, sont chez des grands distributeurs de littérature générale. Donc, évidemment... Il me semble important aussi, nos clients viennent pour des produits monastiques et tout le monde ne vient pas pour un livre religieux, mais donc nous rendons le service, je dirais, de librairie de proximité depuis que nous sommes devenus une librairie indépendante.
Qu'est-ce que ça change au fond pour vous? Alors vous êtes vraiment le frère libraire, ça veut dire que tous les livres, vous les avez peut-être pas tous lus, mais vous savez de quoi il s'agit, vous pouvez donner des conseils aux personnes qui viennent, ça c'est quand même important quand vous parlez de
librairie de proximité. Oui, c'est quand même une sélection de livres ou de romans où il y a quand même... une idée ou une écriture ou voilà un auteur connu quoi, voilà, beaucoup de gens par exemple lisent Eric Emmanuel Schmitt, voilà, je trouve que c'est quand même intéressant si on aime la littérature de se lancer dans la grande saga de la traversée des temps qui fera 8 tomes, et ben voilà, ça c'est quand même un livre où à travers une histoire il y a des valeurs, il y a quelque chose qui est proposé quoi.
Vous travaillez avec combien de maisons d'édition?
Oh genre là, il y en a beaucoup, je suis incapable de les compter. Il y a plus de 100 ou 150 éditeurs chez les distributeurs. Donc vous voyez, il y en a 5 ou 6, donc il faut...
Alors,
c'est très long, quoi.
Être une librairie de proximité, pour reprendre le terme que vous employez, ça veut dire que si moi je veux un roman, voilà...
Ouais, vous pouvez le commander chez nous.
On peut le commander. Si vous ne l'avez pas, vous le commandez.
Vous pouvez commander. Sauf si c'est un éditeur qui n'est pas référencé sur un distributeur. Mais là, c'est parce que c'est quelqu'un qui est indépendant et voilà...
Alors, pour en revenir à cette journée du 6 juin, les auditeurs qui ne connaissent pas la librairie auront l'occasion donc de découvrir tout ce que vous êtes en train de nous expliquer là.
Voilà. Et surtout que ce jour-là, je serai là toute la journée.
Voilà, de 9h à 18h, avec la pause pour la prière du milieu du jour.
Et à 13h, on proposera pour le jeune public, comme nous avons déjà enregistré avec Radio Présence un conte au moment de Noël, oui. Eh bien, je lirai un conte à 13h. Juste après que les gens puissent pique-niquer et rentrer pour ceux qui veulent aller faire la sieste, à 13h, je lirai un conte qui prendra une quinzaine de minutes.
Donc, il ne faut pas s'inscrire, on vient spontanément. On peut venir entre amis, tout seul, en famille, avec des enfants, on a bien compris.
Puis dans le jardin, c'est plutôt un lieu où on lit, donc ce n'est pas le lieu pour parler. Et donc, on proposera plutôt que les gens qui ont envie de parler de leur lecture viennent le faire dans le cloître de l'hôtellerie.
Voilà,
le cloître. Pour que le jardin soit un lieu... propice à la lecture.
Donc, lire, méditer et prier.
Et prier pour ceux qui le veulent. Nous vous rappelons qu'il y a la messe à 9h du matin, qu'il y a à 12h05, il y a l'office du milieu du jour, et à 18h30, les vêpres.
Voilà.
Et 21h, les vigiles.
La communauté des frères est engagée. Alors, vous, on entend bien, hein, frère Martin, vous êtes le libraire, donc, et c'est vous qui avez eu cette idée. Mais les frères seront là aussi
Frères, évidemment, les frères qui sont en lien avec l'hôtellerie et tout ça. Et peut-être comme les frères aussi sont certains occupés, il y aura aussi des personnes qui viendront nous aider pour vous accueillir.
Quel est, au fond, l'objectif pour vous, au-delà de... voilà, de proposer un temps de lecture un petit peu atypique dans un cadre bucolique qui change? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que vous aimeriez que les gens vivent et expérimentent ce jour-là?
Le goût de prendre un temps pour la lecture, quoi. Je crois que c'est ça qui est important. Il y a quelques personnes qui lisent, mais je crois que si on a un peu envie de lire, venir vivre cette expérience dans un lieu adapté, ben ça va faciliter que vous avez plus envie de lire chez vous, quoi.
Et savoir
faire une pause, c'est ça. Et donc je crois que le lieu et notre vie, c'est peut-être ça qui va vous inviter à vivre aussi une pause pour vous, quoi.
Samedi, je lis à l'abbaye, samedi 6 juin 2026, à partir de 9h dans le jardin de l'abbaye Notre-Dame de Tournailles. Venez lire, méditer, prier aux abords de la Rosse avec ce rendez-vous à 13h de lecture de contes pour les enfants. Les enfants de quel âge?
Les enfants de 3 à 9 ans, quoi.
Voilà, un événement à la fois culturel et spirituel. C'est important de le rappeler. Et on peut venir avec sa petite couverture, sa petite chaise pliante,
voilà.
Son pique-nique si
on veut. Voilà. Son goûter, très important.
Le goûter, voilà, très bien. Et puis il y a des pâtes de fruits. Si jamais on a un petit creux, on ira chercher des pâtes de
gâteaux,
fruits.
Et des gâteaux. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, frère Martin. On se voit le 6 juin à l'abbaye.
On se voit le 6 juin à l'abbaye. Merci à vous et à bientôt.
Voilà, avec tout ça, vous ne pouvez pas manquer cette belle opération avec l'habit de Tournai. Un grand merci à Anne-Rose Jankovic. Allez, on continue. Dans quelques instants, on part dans le Gers. Grâce à Pauline Cazier, on parlera du festival Éclat de Voix.
Radio Présence, dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Ce soir, c'est l'automne dans ta tête, et t'iras pas faire la fête sur la piste. Le mot d'excuse inventé, tu restes seul à écouter des chansons tristes. Pour chasser ta mélancolie, il y a des notes d'espoir dans ton lit, dans la voix du chanteur qui gronde. Toi tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Place dans ce monde. Tu dis qu'on vit une drôle d'époque, et combien prennent des médocs pour s'endormir. Tu sais qu'ailleurs il pleut des bombes, qu'il en faudra des colombes pour s'en sortir. Toujours allongé dans ton plume, tu presses le bouton du volume pour que les émotions t'inondent. Et tu cherches ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Tu rêves d'un grand amour à vivre, pourquoi pas écrire un livre et voyager. Jamais faire partie du troupeau, et puis planter le drapeau de la liberté. Entre tous ceux qui réussissent et sur les réseaux le brandissent, tu doutes de toi chaque seconde. Mais tu as ta place dans ce monde, 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 ta place dans ce monde. Comme toi, pendant que danse la ville, je me demande si je suis pile à la bonne place. Au fond, je crois qu'on est des millions à se poser la question devant la glace. Sur le parking des gens heureux, il faut parfois tourner un peu pour trouver une place dans la ronde. Et pourvu qu'elle te corresponde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde. Ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde, ta place dans ce monde.
Présence à Saint-Bertrand-de-Comminges, 94.1.
Le festival Éclat de Voix célébrera en juin prochain sa 29e édition officielle, tout en s'inscrivant dans une histoire débutée en 1991, soit 35 années consacrées à la musique et au spectacle vivant. Je vous propose de retrouver l'interview de Patrick Dechiré. Il est fondateur du festival, il est au micro de Pauline Cazier.
Alors officiellement, ce festival, c'est la 29e édition. Mais en fait, la vérité m'oblige à vous dire que pour moi c'est la 35e édition. J'ai fondé ce festival en octobre 91 sur le principe de faire des manifestations avec une trilogie, l'originalité, l'excellence et l'éclectisme. Et depuis 35 ans, j'essaye de donner au festival Éclat de Voix cette maxime, et j'espère qu'on la respecte toujours, enfin j'en suis sûr même.
Alors pourquoi le thème de la voix? Ça aurait pu être un autre instrument, mais pourquoi la voix?
Alors ça remonte à mon enfance sans doute. Moi j'ai été élevé à Tarbes, je suis né à Tarbes. J'avais une mère très pratiquante, et puis on avait repéré ma voix, et donc j'ai été finalement adolescent en train de faire chanter les fidèles à la cathédrale de Tarbes. Donc cette voix, ça ne date pas uniquement de ça. Mon père était trésorier du Festival international de musique sacrée de Lourdes, et il m'a amené à des concerts, et là j'ai vu des grandes stars magnifiques, des voix mondialement connues. Et puis j'ai été étudiant en médecine à Toulouse, à la faculté de médecine de Toulouse. Et évidemment, je me suis inscrit à la chorale universitaire de Toulouse. Et puis j'ai été choriste, et puis adjoint au chef de chœur. Puis je suis venu à Auch pour m'occuper de la réanimation, des urgences. Et j'ai fondé un ensemble vocal à Auch qui s'appelait La Campanella, pour laquelle j'ai tenu 20 ans, et avec des programmes délicieux. Et puis, au même moment, un peu après mon arrivée, donc en 91, avec un ami, nous avons créé ce festival Éclat de Voix. C'est un festival d'art vocal. Trop souvent, on nous a dit « Ah, mais c'est un festival lyrique ». Non, 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 c'est un festival d'art vocal, parce qu'il y a de tout. Ce n'est pas un énième festival de musique baroque, ce n'est pas un énième festival de jazz, ni de musique de pays du monde, mais c'est tout ça à la fois, avec un fil rouge, c'est la voix et toute l'émotion que peut générer l'art vocal.
Alors ce festival commencera peut-être, j'imagine, dans votre mot d'introduction, comme un hommage à cette grande figure qu'était Béatrice Uriamanzone, qui nous a quittés l'année dernière, beaucoup trop tôt. Oui, elle a été peut-être la marraine un petit peu du festival.
Oh, pas un petit peu, beaucoup depuis la création. J'étais très ami avec Béatrice, et c'est une perte douloureuse. On s'appelait très souvent, alors pas forcément pour parler musique, mais on se parlait de la vie, des joies, des bonheurs et des tristesses de la vie. Et donc on avait une amitié très forte, et c'est vrai qu'elle nous a quittés en juillet 2025. C'est une année qui est très triste, puisqu'il y a deux jours, on a perdu la grande cantatrice
Félicity Loth. Oui.
Dame Félicity Loth, oui. Que j'avais accueillie ici, au festival, le 15 juin 2012. Et elle avait fait un récit. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de Dame Félicity Loth, mais Béatrice Uriamanzone, j'ai souhaité qu'on lui rende un petit hommage. Et c'est pour ça que la soirée prélude au festival, qui aura lieu, je vous l'avais dit, du 9 au 14 juin, la soirée prélude aura lieu le samedi 30 mai à Ciné 32, où l'opéra d'Antonin Dvorak, Rusalka, sera projeté. C'est la captation de l'opéra qui avait été donnée au Capitole à Toulouse, et c'est le directeur artistique du Capitole de Toulouse, Christophe Gristy, qui sera là pour présenter ce film, parce que c'est un film de cette représentation. Ça dure 3 heures, mais il y a un entracte.
Alors le 9 juin, on aura l'occasion d'entendre une grande figure du monde de la variété française, Yves Duteil, qu'on entend plus trop.
Et oui, et alors je crois que je suis un des rares à le programmer, alors que c'est un monument de la langue française, et non seulement par des chansons qui ont été très connues, Prendre un enfant par la main, ou Son amour de la langue française, hein, la langue de chez nous. Et c'est un auteur, compositeur, interprète, avec une voix superbe, j'ai voulu rendre hommage à la poésie de cet homme, et à cet homme lui-même, et c'est pour ça que je le sens bien. Les réservations sont au maximum en ce moment, et ce sera un grand succès pour ce gala d'ouverture, où il se produira accompagné d'un violoncelle et d'une contrebasse. Yves Duteil à Auch le 9 juin, alors ça se passera au Dôme de Gascogne, et c'est à 21h.
Alors, il y a aussi des voix au pluriel, du jazz. Expliquez-nous quels sont les groupes qui viennent, les Swing Cocktails, par exemple.
Alors, le lendemain, le mercredi 10 juin, toujours à 21h au Dôme de Gascogne, les Swing Cocktails, ce sont trois chanteuses et un pianiste. C'est une sorte de comédie musicale qui est mise en scène par l'excellent metteur en scène, Alain Saxe. Et c'est quelque chose qui mélange plusieurs styles de musique avec beaucoup d'humour. C'est la parodie vocale telle que nous l'aimons, avec de la qualité vocale, pas de vulgarité comparée à certains spectacles que je vois par-ci par-là, mais de la finesse, de l'humour et de la qualité vocale, avec des parcours et des expositions de musique tout à fait indescriptible, et c'est une grande surprise où les gens seront là pour goûter le plaisir de l'art vocal, mais aussi rire, et on en a besoin.
Oui, tout à fait. Le 12 juin, par exemple, je vois Hervé Subiette et Étienne Manchon dans des chansons Bach. De quoi s'agit-il, au Théâtre d'Auch?
Alors, Hervé Subiette, que l'on connaît bien, et Étienne Manchon, qui est un délicieux pianiste. Chanson Bach, c'est très simple. C'est sur des mélodies et des œuvres de Jean-Sébastien Bach qu'Hervé Subiette a mis des mots. Des mots, il raconte des histoires, et c'est quelque chose de poétique, de ludique, et c'est quelque chose qui est accompagné par cet excellent pianiste qui, entre quelques chansons, se laisse libre à l'improvisation, et c'est un spectacle très, très original, là aussi. Donc on va entendre à la fois du Bach, mais de la variété, avec tout le talent d'Hervé Subiette. Ça, c'est au Théâtre d'Auch, vous avez raison de le préciser, toujours à 21h, le 12 juin. Mais on a sauté une date, la date du 11 juin. Alors, donc, le 11 juin, après avoir passé deux soirées au Dôme de Gascogne, le 9 et le 10, le 11, on va dans la très belle église Saint-Aurens d'Auch, qui vient d'être rénovée, d'ailleurs. Et nous accueillons un ensemble splendide, merveilleux, qui a une notoriété maintenant nationale et internationale, qui est La Sportelle, qui vient de Rocamadour. Ça a été créé à Rocamadour. Et c'est un programme qui va de la musique sacrée à travers les siècles, de la Renaissance, du grégorien même, jusqu'au XXe siècle, jusqu'à la création contemporaine. Alors, c'est somptueux, c'est 9 chanteurs a cappella qui vont occuper l'espace. Et c'est à 21h à l'église Saint-Aurens à Auch. Et tout ceci pour des tarifs abordables. Tous ces spectacles coûtent entre 10 et 25 euros. Donc, et si vous voulez savoir tout le programme de cette très très belle soirée, qui en fait, je ne devrais pas le dire, est un petit peu mon coup de cœur, mais ça, il suffit d'aller sur notre site www.éclatdevoix.com, éclat au pluriel et tout attaché, éclatdevoix.com, et vous avez le programme, des extraits et tout ce que vous voulez savoir encore plus qu'aujourd'hui.
Mais je voulais savoir comment vous arrivez à monter le programme. Est-ce que vous allez voir les mois précédents des groupes, écouter des concerts? Comment vous faites pour choisir? J'imagine que vous choisissez alors que vous auriez envie, peut-être, pour les années prochaines, inviter d'autres personnes.
Alors, c'est une question à laquelle il m'est toujours très difficile de répondre parce que je recherche une alchimie. En fait, la réalité, c'est que je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à ce que le festival, même s'il est de taille modeste ici, mais enfin, il est reconnu localement, régionalement, nationalement et pour certains internationalement. Donc, je reçois entre 1000 et 2000 demandes par an. Et donc, là-dedans, bien sûr, je bouge, je me déplace et puis j'essaye de repérer des choses qui vont faire que l'ensemble sera original, éclectique et de qualité, d'excellence. Et donc, c'est au moment de l'été où tout ceci se mélange dans la tête pour l'année qui suit et où j'essaye d'arriver à faire cette alchimie. Et chaque année, c'est un plaisir, mais c'est pas simple.
Une dernière question. Un festival ne peut pas se tenir sans les bénévoles. Vous avez beaucoup, j'imagine, de personnes qui vous aident.
Oui, nous avons pendant le festival 48 bénévoles. Alors aussi important pour conduire les artistes, pour ce qu'on appelle le catering, pour les nourrir, etc. et pour accueillir le public, pour les placer, pour les conseiller. Oui, oui, c'est une équipe tout à fait talentueuse, et sans les bénévoles, un festival ne peut pas survivre. Hein. Et puis après, les choses s'enchaînent, et chaque spectacle étant différent, cette année, nous occupons 5 lieux à Auch, que ce soit le Dôme de Gascogne, que ce soit l'église Saint-Aurens, la cathédrale d'Auch, que ce soit le théâtre ou le centre Cusin. Voilà les 5 lieux. Et le final aura lieu à la cathédrale d'Auch le 14 juin à 18h cette fois-ci, avec un chœur de 40 chanteurs, les conférences vocales dans un programme qui va mettre les spectateurs dans une ambiance incroyable, et ils vont être là en train de parcourir un univers nordique dont ils seront très surpris.
Voilà, à l'instant, vous en savez plus donc sur ce festival Éclat de Voix grâce à l'interview de son fondateur, Patrick Duchéré, qui était au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
Comme l'arbre qui pousse dans le béton, la fleur qui renaît chaque saison, comme le ciel qui rejoint l'horizon, il y a tout ce qu'on ne contrôle pas. Comme donner de l'amour sans raison, être libre au fond d'une prison, le courage de demander pardon. C'est beau mais ça ne s'explique pas. La vie reprend, la vie redonne, quand on ne l'attend pas. Et même la somme de tous les hommes pourrait changer ça. Elle écrit et elle gomme sous nos pieds nos faux pas. Et même la somme de tous les hommes n'a jamais changé ça. Comme la nature quand elle reprend ses droits, la blessure quand elle devient la foi, le murmure quand il devient la voix, là où on ne l'attendait pas. Et on peut réfléchir, définir, planifier l'avenir à cacher. On devrait ressentir, laisser passer nos pensées, ne pas être pressé. La vie reprend, la vie redonne, quand on ne l'attend pas. Et même la somme de tous les hommes ne pourrait changer ça. Elle écrit et elle gomme sous nos pieds nos faux pas. Et même la somme de tous les hommes n'a jamais changé ça. On n'éteindra jamais le soleil, mais il arrive qu'on perde l'étincelle. Alors si un jour je ne m'émerveille plus, rappelle-moi combien j'y ai cru. La vie reprend, la vie redonne, quand on ne l'attend pas. Et même la somme de tous les hommes ne pourrait changer ça. Elle écrit et elle gomme sous nos pieds nos faux pas. Et même la somme de tous les hommes n'a jamais changé ça.
Présence à Mirande 104.2.
Bonjour à tous, à la une aujourd'hui, la région Occitanie lance une nouvelle démarche de démocratie participative. Un appel à candidature est ouvert jusqu'au 22 juin afin de constituer un comité régional du dialogue citoyen. Des habitants tirés au sort pourront travailler directement avec les élus régionaux sur plusieurs sujets, notamment les mobilités du quotidien. L'objectif affiché est de renforcer le dialogue entre citoyens et responsables politiques à travers une démarche participative inédite à l'échelle régionale. régionale. À Toulouse, l'Oncopol annonce la création d'une nouvelle unité de recherche consacrée à la prévention et à la réduction des inégalités face au cancer. Baptisée PRIC, cette structure est une première dans un centre de lutte contre le cancer en France. Elle doit permettre de mieux comprendre les écarts de prise en charge selon les territoires ou les situations sociales, mais aussi de développer des actions concrètes pour améliorer l'accès aux soins pour tous. À Lourdes, des élèves vont relever un défi original, passer 10 jours sans écran. L'école Massabiel participe à cette initiative nationale qui encourage les enfants à réduire leur temps devant les télévisions, tablettes, smartphones ou encore les consoles de jeux. Pendant 10 jours, les 227 élèves de l'établissement seront invités à privilégier les jeux, la lecture ou les activités en famille. Une opération destinée à sensibiliser les enfants, mais aussi les parents, aux effets d'une exposition excessive aux écrans. Toujours à Toulouse, l'Institut de mathématiques accueillera vendredi la cérémonie du prestigieux prix Fermat. Décerné tous les deux ans depuis 1989, cette récompense internationale distingue des chercheurs de haut niveau dans les domaines où Pierre de Fermat fut un précurseur, comme la théorie des nombres ou les probabilités par exemple. Plusieurs étudiants recevront également un prix Fermat Junior pour leurs travaux de recherche. Dans l'Aveyron, la mobilité douce sera à l'honneur jeudi à Rodez, à l'occasion des Jeudis de la Cité. Organisée par la CCI Aveyron et Campus 17 Avenue, cette journée permettra au public de tester gratuitement des vélos à assistance électrique, cargo ou long tail. Des ateliers, conseils et sorties accompagnées seront également proposés afin de promouvoir des déplacements du quotidien à vélo. Et puis enfin, pour finir en sport, la célèbre ronde de l'Isard s'apprête à traverser pour la première fois le département du Lot. Cette course cycliste internationale réservée aux espoirs de 19 à 22 ans prendra son départ mercredi à Biars-sur-Cère avant une arrivée à Saint-Cyr-la-Popie après 162 km de course. 25 équipes représentant 15 nationalités seront présentes sur cette 48e édition. Des restrictions de circulation sont également prévues tout au long du parcours.
Et encore merci à Sacha Baudet-Poupillier de l'Institution supérieure de journalisme de Toulouse. Un petit coup de chapeau quand même à tous ces étudiants, j'aime bien le rappeler, hein, qui font cet exercice, qui est à mon avis un très bon exercice pour eux. La rédaction de ce journal et puis le fait qu'ils puissent le lire et être diffusé, ben voilà, c'est bien que ces jeunes puissent faire du travail concret dans leur futur métier. Et le retour de l'actualité, vous le savez, ce sera à 13h avec toute la rédaction française de Radio Vatican. Maintenant, on va se plonger dans l'histoire. Philippe Nolli aime bien ce devoir de mémoire. Il nous propose aujourd'hui deux ouvrages consacrés à la guerre. Je vous propose de retrouver donc un jour, un livre, un auteur.
Présence à Auch, 89.6.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nolli, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Nolli, Diego Arabal, fidèle au rendez-vous, et là, je vois Philippe Nolli impatient. Bonjour
d'abord à tous les deux. Je
bonjour, bonjour Philippe.
Bonjour Rabal. Parce que les auditeurs, bien sûr, ne le savent pas, mais on prépare avant l'émission. Oui. Et là, vous nous avez déjà fait deux fois la chronique sur le livre que vous allez chroniquer aujourd'hui.
Oui, ah, aujourd'hui.
On va pouvoir vérifier qu'il lit la même chose.
Ouais, ouais, exactement. Une émission consacrée à deux romans qui m'ont réellement touché, puisque vous savez qu'à l'approche de l'été, hein, j'ai l'habitude depuis maintenant 13 ans de présenter des romans qui m'ont touché, qui vont être sur des thèmes différents, et que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette émission littéraire modeste mais géniale, comme le disait si bien celui qui avait fait l'émission là-bas, si j'y suis, et qui s'appelait Daniel Mermet sur France Inter. Tout d'abord, La vie entière de Timothée de Fombelle, publié chez Gallimard, et Les confidences de Marie Nignier, publié chez Folio en livre de poche. Commençons par le premier et sa quatrième de couverture réellement alléchante. Hier, j'ai eu 19 ans, mais il y a sous mes mains cette nuit une femme qui se met à exister dans ma chambre bavarde et vieille. Elle descend le clavier comme un escalier d'honneur. Une femme très âgée qui parle et me survivra. C'est moi. Paris sous l'occupation. Claire attend son chef de réseau dont le retard laisse présager le pire. Elle devrait quitter l'appartement.
c'est la règle. Mais elle reste étape à la machine, inventant sa vie avec cet homme qu'elle aime en secret. Les baisers sur les toits, l'amour fou, les enfants, la mère, la vieillesse heureuse, et tous les miracles ordinaires d'un temps de paix. Dans l'urgence de cette nuit où l'existence ne tient qu'à un fil, Claire se sauve par les mots et crée sur le papier l'espace d'une vie entière. Habituée des récits au long cours, Toby Lopnes, Van Gogh, Alma, Timothée de Fombelle célèbre ici en quelques pages virtuoses la toute-puissance de l'écriture et de l'imaginaire. Voilà un roman où les mots vous transportent loin, je vais lire quelques extraits. Alors, posez le téléphone portable loin de vous et lisez cette très belle histoire. On commence en page 13. L'odeur du vin. Devant moi, ses mains sur la nappe, les boutons défaits de ses manches. Je le regarde par en dessous sans lever la tête. Il écoute la conversation des voisins. Il sent le savon blanc. On est bien. Le patron met un gilet pour servir. Le temps du dîner, les murmures, la fatigue de la mer et du vent, peu de mots. Regarde, c'est bien présenté ces coquillages. La patronne qui descend soudain à l'heure du dessert, l'enfant dans les bras, mon chéri, parce qu'elle l'a entendu pleurer là-haut dans la chambre. Toute la salle se retourne vers nous. Je prends le petit sur mes genoux. Je parle dans son oreille brûlante. Il a les yeux entourés de larmes. Il sourit. Les clients lui tendent les biscuits de leur glace. Mets-les dans ta poche. En sueur, contre mon cou, il regarde autour de nous comme un animal. On l'oublie. Il dort. Je le porte dans l'escalier. La serviette de table enfermée dans son poing serré. Impossible de la retirer de sa main. Ce n'est rien. Vous la rendrez demain si vous voulez. Enfin s'allonger, parler très bas, se retrouver. Le vent dans la fenêtre. La nuit salée et pleine. Tout cela se passera après, parce qu'un jour, un matin, ce sera fini. Les mains vides. La fin de la guerre. La peur évanouie. Il ne reste qu'à être en vie, à boire de l'eau au robinet, à pousser du pied les pommes de pin dans l'herbe. Plus tard encore, je suis vieille, j'imagine. Je raconterai tout aux enfants. Ce sont eux qui réclament. La plus petite s'est endormie. La route est longue, c'est la nuit. L'auto est remplie d'enfants. Combien sont-ils sur la banquette arrière? Ils disent « La robe, raconte-nous la robe !» Ils la connaissent déjà par cœur. Je parle en conduisant lentement. Les phares éclairent les arbres des deux côtés de la route. Je cousais des messages dans les ourlets d'une robe d'été pour les cacher. C'était la guerre, vous savez. Je marchais dans les rues de Paris avec ses secrets. Forteresse légère. Il y a du monde sur les trottoirs, je n'ai pas peur. On me regarde trop pour me voir. La chaleur, les voitures allemandes qui ralentissent, les regards, les rires, les cris. Mademoiselle ! Et les vivants cachés dans le revers de ma robe. Je mets ensemble le passé et l'avenir. Je ne fais pas le tri. Je gagne du temps sur la nuit. Peut-être que je reconnaîtrai soudain son pas dans la cour, l'entendre enfin venir, bonsoir, son pas posé sur ma terreur. Il monte, il ne me regarde pas. Pourquoi m'avez-vous attendu? Je souris, je ne dis rien. Je rassemble les feuilles répandues sur la table. Il est là, le battement de la fièvre sur mes tempes, les cheveux encore coulés de cette buée de mots. J'étais petite, réveillée en sursaut la nuit par le silence. Je m'en demandais à tâtons où j'étais, peut-être à peine endormie. Tout près du soir, peut-être ailleurs, dans une maison lointaine, je ne sais plus. Je ne cherche pas vraiment. Les yeux fermés, je profite un peu d'être perdu. Un lac noir sans rive où je fais la planche. Et puis de très loin me parvenait le clapotis d'une voiture à cheval dans la rue. Ce bruit du matin que je reconnais, qui me prend la main et me ramène à la maison. Viens, c'est l'heure, on rentre. J'ai vu les dimanches de guerre. La ville heureuse quand même. Ce monde partout, la foule au jardin, les goûters dans les landaus, les ponts piétinés, les familles penchées sur la Seine. Le soleil qui fait croire à la paix. Hier, j'ai eu 19 ans, mais il y a sous mes mains cette nuit une femme qui se met à exister dans ma chambre, bavarde et vieille. Elle descend le clavier comme un escalier d'honneur. Une femme très âgée, qui parle et me survivra. C'est moi. J'ai des souvenirs d'avance serrés à l'intérieur, roulés ensemble. Tout est déjà là. Le bout de la laine entre les dents, la pelote sur mon cœur, et je la jette loin devant. J'aimerais un jour aussi l'autre enfant. Je ne sais pas la couleur de ses yeux ni de ses cheveux. une petite fille venue après, qui ressemblera à son frère, à son père, et à tous ceux d'avant, grands-parents, ancêtres. Tous ceux qui remontaient, petits de la plage, coulés de sable, tremblants, les lèvres violettes sur le chemin de fer. Voilà un premier extrait d'Diego Arrabal de ce très 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 beau roman qui fait à peu près 80 pages, mais où les mots nous transportent de cette histoire de cette femme qui attend ce chef de réseau et qui, ne le voyant pas arriver, se met à écrire l'histoire qu'elle voudrait avoir après la guerre. C'est un roman extrêmement touchant. Quand je l'ai lu, j'ai pensé notamment à ces femmes ukrainiennes qui, durant la guerre, pendant la guerre, peuvent se retrouver à un moment donné à attendre donc sur le front un chef de réseau ou un homme qui va attendre une femme qui va lui donner un message. Et j'ai pensé effectivement à eux. Et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce second message maintenant, enfin ce second passage, pardon, maintenant, que je vais lire en page 67 avant de présenter le deuxième roman, donc Les Confidences de Marie Nimier. Premier roman toujours, La vie entière, chez Gallimard, de Timothée de Fombelle. J'avais 14 ans et demi au premier jour de la guerre. La chienne avait eu des petits cet été-là, sous la table de la cuisine. C'était arrivé à l'heure la plus chaude. Assis sur le carrelage, je respirais l'odeur de sang et de vie. J'étais un animal aussi. Je n'arrivais pas à m'éloigner. Je ne reconnaissais pas la mère haletante, si sage la veille devenue une louve. Les chiots paraissaient inachevés. Je regardais bouger cette couline sous la table. On m'avait envoyé en juin à la campagne pour ne pas m'avoir sur les bras à Paris jusqu'à fin septembre. Je marchais très loin dans les bois et les prés. Je revenais en même temps que la nuit ou un peu après. Des nuages d'étourneaux faisaient un bruit de marée basse. Le matin, je restais dans ma chambre, la porte fermée à clé. Je me rendormais par petits traits d'un quart d'heure, réveillé par la lumière et la chaleur. Je cuisais dans mes draps mouillés. Je chantonnais. Je me levais sans m'habiller. Je tirais alors le drap derrière moi comme une traîne pour aller jeter un coup d'œil par la fente du volet. Personne ne s'occupait de moi. Je sortais à 2 heures de l'après-midi. Je volais des œufs dans la cuisine. Je m'évadais. Le ciel était blanc. L'herbe craquait. Je marchais tout droit jusqu'à la fatigue sans jamais penser au retour. Je ne voyais de gens nulle part. Même pas une silhouette dans les champs. J'aurais pu mourir, on l'aurait su le dernier jour, à l'heure du train. On m'aurait cherché dans la maison et sur les chemins, on aurait sondé les étangs. Mais j'étais vivante comme mille, je sentais remuer une ruche au milieu de moi, une réserve profonde, assez pour la vie entière. Il viendra, il n'aura pas de colère, il faut partir, venez. Je l'écris pour croire que c'est arrivé, il viendra, il me donnera ses gants. Mettez cela, il fait froid. Je t'ai attendu, tu vois. Je veux être vieille et ralentir devant les miroirs. Je veux une vie étendue des deux côtés de la guerre. La petite maison aura peut-être brûlé un été, longtemps après, dehors avec les enfants devant les flammes, les larmes salées dans la couverture grise. Nous sommes tous là, regarde. Les bras et les doigts qui se tiennent ensemble. Tout a brûlé, mais regarde-nous, vivants, le premier rire. Il faudra recommencer. Je me suis peut-être trompé depuis le premier jour. J'aurais dû rester sur le bord. Ne nage pas trop loin. Ces mots qui gardent en vie. Ne te penche pas. Tout ce que l'on dit quand il y a encore temps. J'aurais dû acheter du pain, du beurre, m'asseoir dans la cuisine, une tartine de beurre, du café au marché noir. J'aurais eu les coudes sur la table, assise au bord de la guerre. Les mailles rouges des gobelets accrochés au mur, du gaz bleu sous la casserole. Rien d'autre pendant des mois. Ce qu'il reste des batailles après l'odeur du pain grillé. À quoi sert de quitter la cuisine ? Attendre là quelques saisons, s'asseoir, ne plus se battre, ne plus se battre. Vapeur de guerre à deux rues, la porte fermée. Volupté de sucre et de beurre frais, ici. Voilà ce premier roman, je voulais lire des extraits.
Superbe.
Parce que l'écriture est littéralement superbe. Et quand je l'ai lu, il m'arrivait de lire les mots à voix haute pour les apprécier d'autant plus. Il écrit dans une langue absolument formidable. C'est un livre d'une condensée, d'une intensité incroyable. Et puis, cette histoire que je trouve magique de cette femme sous l'occupation qui attend son chef de réseau, dont le retard laisse présager le pire. Elle devrait quitter l'appartement et pourtant...
Elle reste.
Elle reste parce qu'elle se sent étonnamment vivante, parce que quelque part, elle aime cet homme et elle s'invente une vie. voilà, durant cette attente. Et c'est un roman absolument magnifique. Quand je l'ai vu, je l'ai pris d'emblée, je voulais le conseiller, parce que c'est vraiment un roman d'été, je trouve, à lire tranquillement, assis sous un arbre. On en parlait il y a quelques semaines, à déguster. Vous preniez quoi, de la menthe, vous? C'est ça,
oui,
du
oui.
Rabat, vous restez toujours
de
sur la menthe?
De la menthe avec un peu de sucre.
Bon, je ne sais pas ce que Philippe Subercas prendra, je l'imagine
un
plus
peu,
à la bière.
Un peu de rhum.
Un peu de rhum, oui, je l'imagine bien. À Philippe Subercas. Bon, voilà pour ce premier livre, Timothée de Fombelle, La vie entière, donc un roman publié chez Gallimard. On va parler du deuxième, qui est tout aussi fabuleux. C'est un roman de Marie Nimier, Les Confidences, Folio, avec une idée, vous allez voir, d'une originalité extraordinaire. Je lis la quatrième de couve. Pour moi, une confidence, c'est une histoire que l'on garde pour soi parce qu'elle concerne tout le monde. Si elle ne concernait pas tout le monde, on n'aurait pas besoin de la garder pour soi. Dans un appartement meublé de deux chaises, une table et un immense philodendron, Marie Nimier recueille les yeux bandés des confidences. Un à un, les volontaires se livrent anonymement à de troublants aveux, souvent pour la première fois. Remords, regrets, culpabilité, mais aussi désirs, rêves et fantasmes se dévoilent. Jusqu'à ce qu'un jour Marie perde pied. Celle que son père surnommait enfant la reine du silence, prend finalement la parole. La dernière confidence sera la sienne. C'est un livre absolument fabuleux. Je vais vous lire, vous allez voir l'extrait, page 13. Elle a une idée géniale, donc de se dire un jour, tiens, je vais louer un appartement dans un lieu qui n'est pas le mien, pour pas qu'on me connaisse. Et elle passe une annonce pour que les gens, effectivement, viennent la voir et les gens répondent à l'annonce. C'est original comme idée.
Très original, oui.
Je vais vous lire en page 13, donc effectivement cet extrait que j'ai trouvé fabuleux quand je l'ai lu. Voilà, il est jubilatoire ce livre. Pendant des mois, quand on m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu que je travaillais sur mon machin autour des confidences. Un jour, à force de tourner en rond, le machin a pris corps. Je suis monté dans un train avec une valise et tout s'est accéléré. Dès le lendemain de mon arrivée, armé d'un rouleau de scotch et d'un plan détaillé de la ville, j'ai posé des affichettes dans quelques endroits clés. Le lycée et le centre d'apprentissage, le hall d'accueil du supermarché, la maison des associations, la médiathèque, ainsi que chez les commerçants des quartiers nord, près du canal, plus réceptifs d'après la bibliothécaire que ceux de la rue piétonne. On pouvait y lire, en lettres bleues, sur fond jaune, le texte suivant. « Appel à confidence ». Une phrase entendue dans l'enfance, un acte que l'on regrette, un bonheur volé, une pensée qui vous tourmente ou vous fait sourire, un rien du tout, mais qui revient sans que vous sachiez pourquoi, un désir, un remords, une peur qui retient votre esprit en otage. Du 28 septembre au 16 novembre, une romancière recueille confidences, confessions et autres secrets. La rencontre se déroulera de façon parfaitement anonyme. Les témoignages serviront de base à l'élaboration de textes de fiction qui pourront être mis en scène et publié. Les noms des personnes évoquées seront changés, les lieux rendus méconnaissables. Pour partager une émotion, déposer un souvenir encombrant, ou simplement parce que la démarche vous intrigue, n'hésitez pas à vous inscrire. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer sont invités à envoyer leur récit sur le site des confidences à partir du 26 septembre, voire lien ci-dessous. En bas de la feuille, rebiquez des languettes prédécoupées où figurez l'adresse du site dans la pure tradition des petites annonces à franges que l'on met dans l'espace public pour retrouver son chat, son chien ou signaler une disparition.
Ou sa belle-mère.
Ou sa belle-mère, voilà, ça peut arriver, ouais. Et voilà, donc c'est ce premier extrait que je voulais vous lire. Donc elle a décidé de partir et ça donne un roman d'une saveur exceptionnel. Quand j'ai lu la quatrième de couve, je me suis dit, ce roman est pour moi. Alors, vous savez, Diego Arabal,
il a bien vécu ce roman, hein, là. Je le vois entre vos mains.
Ouais. Alors, en fait, il a bien vécu. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai emmené quand j'étais au Vietnam et j'ai la bouteille d'eau qui a fui.
D'accord.
Donc, il a pris l'eau. Donc, c'est un roman, en fait, voilà, qui a une vie, effectivement. Une deuxième vie, mais bon, voilà.
Ah, je pensais que vous l'aviez avec vous depuis des années,
le feuilletiez. Philippe Subercas, je sens que vous allez me faire une remarque.
Non, pas du tout, pas du tout. Vous amenez. Mais c'est bon d'amener des livres un peu.
Oui, oui, et puis d'avoir une bouteille d'eau qui fuit.
C'est dommage que les auditeurs n'aient pas l'image de votre livre.
Oui. Oui, parce que c'est vrai qu'il a vécu, mais alors il a une histoire particulière, celui, puisqu'il faut savoir que je l'ai acheté au marché de Bagnères du Bigorre. Vous savez qu'au marché de Bagnères du Bigorre, vous avez un vendeur de livres d'occasion.
Et donc un jour, en allant marcher en montagne, en revenant, il y avait le marché de Bagnères, j'ai dit, tiens, avant de partir au Vietnam, je vais aller m'acheter des livres d'occasion. Et je suis tombé sur ces deux livres dont je vous parle ici. Et je me suis dit, tiens, voilà, donc le livre était déjà d'occasion, il avait déjà vécu, il avait déjà une patine. Je me suis dit qu'il fallait que moi je rajoute la mienne.
Oui, oui, vous avez toujours besoin de rajouter votre patte.
On me le reprochait au studio,
non,
vous voyez.
C'est bien,
mais
c'est bien.
Mais c'est pas faux. Je vais vous lire donc dans ce livre, Les Confidences, une confession, en page 29, et vous allez voir, c'est vraiment savoureux. Ça s'intitule Un billet de 20 euros. Le confident suivant est une confidente. Je mets un moment à le comprendre tant son timbre de voix est grave. La diction est limpide, le discours construit. Elle aussi doit avoir apporté des notes car elle tourne de temps à autre une page, à moins qu'elle ne tripote un journal pour occuper ses mains. L'histoire qu'elle est venue raconter commence un vendredi en fin de journée après le travail. Comme tous les vendredis, elle va faire ses courses au supermarché. Et comme tous les vendredis, un homme est là, assis en tailleur près de la porte vitrée. Il ne vend rien, en fait rien de matériel. Il offre sa présence régulière, son sourire singulier, et en échange, on peut, si l'on veut, lui donner de l'argent. C'est son travail à lui, son activité. Il a deux dents métalliques sur le milieu et un trou au milieu. Ses lèvres sont bombées, ses pommettes hautes et saillantes, son dos bien droit, et même plus que droit, légèrement cambré, projetant son gros ventre vers l'avant. Au pied, il porte des baskets, sans lacets. Ses cheveux noirs ont des reflets cuivrés quand il y a du soleil. Des reflets cuivrés jusqu'au jour où il se rase les cheveux. Elle va pour lui faire remarquer comme s'il ne le savait pas lui-même. « Tiens, mais vous vous êtes rasé aujourd'hui !» Elle veut lui signifier qu'elle fait attention à lui, qu'elle le regarde, qu'il n'est pas juste un tas fiché d'une main tendue, mais elle pense au dernier moment qu'il a peut-être été obligé de se raser à cause des poux. Alors elle ravale son commentaire et se contente de lui demander de ses nouvelles. L'homme lui répond dans son français approximatif qu'il ne va pas très bien. « Je n'allais pas bien, c'est difficile. » Et paume ouverte, il lève les yeux au ciel. Elle croit qu'il invoque les forces divines, mais non, l'homme est pragmatique. C'est la pluie qui gâche sa journée. Les gens sont pressés, ils partent vite sans rien lui donner. Ils ont peur de recevoir la sauce. Au supermarché, elle en a pour 40 euros. Le caissier a l'air désolé qu'elle ait égaré sa carte de fidélité. Il en fait tout un plat, la file s'allonge. Elle fouille partout, décidément, non pas de carte. Avant de refermer son portable, elle constate qu'il ne reste plus de pièces, juste un billet de 20 euros. Elle le range dans la poche de son jean pour qu'il soit facilement accessible. Elle veut laisser quelque chose à l'homme qui fait la manche. Combien va-t-elle lui donner? 2 euros, comme les autres fois, 5 euros? Elle n'aura qu'à lui demander s'il a de la monnaie. Elle s'apprête à sortir du supermarché en poussant son caddie. 5 euros, ça lui semble beaucoup soudain. En coupant la poire en deux, disons 4 euros, ce qui fait tout de même 10% du montant total de ses achats. Ce petit marchandage avec elle-même la satisfait. Elle se trouve très généreuse. Quand elle passe la porte vitrée, il est là, il n'a pas bougé. Il pince son t-shirt entre son pouce et son index, le tire vers l'avant pour le décoller de son ventre. Elle lui demande d'une voix claire comme elle le ferait chez n'importe quel commerçant. « Est-ce que vous avez de la monnaie sur 20 euros ?» La tête de l'homme se redresse, son visage s'illumine. Il prend le billet et remercie la jeune femme en plaçant sa main droite sur son cœur. Elle attend debout devant lui, mais rien ne se passe. Elle attend encore. Ça dure longtemps, trop longtemps. Visiblement, l'homme n'a pas l'intention de lui rendre quoi que ce soit. Il dodeline de la tête. Il est content. Depuis ce jour, chaque semaine, elle appréhende le moment d'aller faire ses courses. L'automne arrive, les cheveux de l'homme repoussent. Même si le temps est au beau fixe, il dit en regardant le ciel, « c'est difficile aujourd'hui », comme s'il prononçait une formule magique susceptible de déclencher l'apparition d'un billet de 20 euros. Quand la jeune femme lui donne des pièces, elle a l'impression d'être en faute. Il remercie pourtant la main sur le cœur avec le même enthousiasme, la même reconnaissance, mais ses remerciements sont embarrassants. Elle va de moins en moins souvent au supermarché, deux fois par mois, une fois par mois, et puis un vendredi. L'homme n'est plus à sa place habituelle. Il a déménagé sur un carré de pelouse près des caddies. Un garçon d'une dizaine d'années l'accompagne. Il tient en l'air son téléphone qui diffuse une musique entraînante, pensant ainsi attirer la sympathie des bienfaiteurs potentiels, sans y imaginer qu'il leur envoie un message contradictoire. S'il a de quoi s'offrir un portable, c'est que son père n'est pas dans la misère. Les clients du supermarché se sentent floués. Est-ce pour cela qu'on lui a donné de l'argent semaine après semaine pour qu'il paye un forfait téléphonique à ce gamin au jour où bondi? La jeune femme le salue et l'homme, d'un geste doux, encourage le petit à s'avancer vers elle. Il s'exécute en se tortillant un peu. Quand elle lui demande comment il s'appelle, il hausse les épaules. Elle comprend qu'il ne parle pas un mot de français. Elle ne donne jamais d'argent aux enfants qui font la manche. Mais là, comment dire? Elle ne peut pas faire autrement. Un mouvement inattendu survient alors. Un mouvement qui la touche plus que de raison.
Le gamin regarde la pièce de roseau qu'elle a déposée dans sa main, referme les doigts, puis se jette à son cou et l'embrasse, de bons baisers bien chauds dans le froid de l'hiver. Quand elle va remettre son caddie en place, l'homme lui explique qu'il n'a plus le droit de s'installer devant le supermarché près de la porte d'entrée. La direction lui a demandé de quitter sa place. Elle l'a congédié en somme, alors il reste là, sur le parking. Ce n'était pas commode, l'humidité, la boue, les pots d'échappement, les gens qui font semblant de ne pas le voir. Difficile, conclut-il, difficile. Elle n'est pas retournée au supermarché. Elle ne peut plus y aller. Elle n'en est pas fière, mais c'est ainsi. Elle a peur de croiser le regard plein de gratitude et de peine de l'homme au sourire d'argent. Peur de retrouver l'enfant. Ses baisers lui pèsent. Ses remerciements. Voilà une des confidences, vous voyez, qui est faite.
C'est superbe.
C'est superbe parce que c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Et ce sont des gens, effectivement...
C'est à la fois très banal et superbe.
Et superbe. C'est-à-dire que, en fait, toutes les confidences qu'elle a, ce sont des banalités qu'elle transforme en
pépite.
En pépite. C'est-à-dire d'une citrouille, elle en fait un carrosse. C'est vraiment un très, 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 très beau livre que je recommande, parce que là aussi, il est très bien écrit. Il touche vraiment les personnes et je trouve qu'il est très beau. Et je vais vous lire une dernière confession avant qu'on arrive donc à l'issue de cette émission. Ça s'appelle la poire. Vous voyez où se trouve l'écluse ? Nous étions installés juste derrière rue Aristide Briand, au bonheur des fruits, entre le tabac et la banque. Un jour, mon mari n'était pas là. Je venais de remonter le rideau de fer. Une cliente est arrivée. Ding-dong ! Je la regarde. Elle est aveugle. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un choc. Elle éclaboussait les marchandises de son regard laiteux. J'en étais gêné pour elle. Je me souviens avoir pensé « Vous allez me trouver ignoble. » Mais c'est bien ça que je me suis dit. Elle pourrait porter des lunettes noires au moins. Elle m'a demandé 1 kilo de poire sans s'inquiéter du prix. Je lui ai mis les plus chères. Des passe-crassanes qui avaient un peu vécu, à la fin j'en ai rajouté une qui était visiblement abîmée. Je lui ai lancé « Ça fait un peu plus 10 kilos, je laisse ou j'enlève ?» Elle a répondu en papillonnant « Laissez, laissez !» Puis elle a payé et reparti. Ding-dong ! Son sac en papier débordant de fruits d'un côté et sa canne de l'autre. L'après-midi, le lendemain, la semaine suivante, j'ai eu peur qu'elle revienne avec la poire pourrie. J'en ai fait des cauchemars. Elle me visait en se repérant à la voie. La poire s'écrasait contre la vitrine, une crosse traînée blanchâtre avec des grumeaux. Heureusement, elle n'est jamais revenue au magasin. Je l'ai aperçue une fois près du pressing. Je me suis dépêché de traverser la rue. Elle m'a suivi comme si elle avait pu m'identifier à l'odeur. J'ai commencé à courir. Les gens me regardaient étrangement. Tout le monde me connaît dans le quartier. Personne ne m'avait jamais vu courir. Il y a une très belle confidence aussi à
très
partir d'une poire.
De vie, oui.
Voilà, très belle tranche de vie. Et vous voyez, Alice Fernet dans Le Figaro littéraire disait à propos de ce livre est merveilleux, littérairement réussi, humainement émouvant, intellectuellement stimulant. Et François Brunel disait, tout ce qui fait la condition humaine s'y déploie. Et c'est exactement ça. C'est un livre vraiment passionnant et je vous recommande dans les lectures de l'été, comme on le fait, comme je le fais chaque année en arrivant à la fin de cette saison. Ces deux romans, Timothée de Fombelle, La vie entière, donc un roman publié chez Gallimard, absolument magnifique, avec cette jeune femme qui attend son chef de réseau qui ne vient pas et qui s'imagine, alors même qu'on est en pleine guerre, une vie qu'elle aurait avec lui après la guerre. Et on sent bien cette comment la vie peut se concentrer dans quelque chose de un peu comme un trou noir avec une puissance et une force terrible. Marine Nimier, Les Confidences, publié donc en folio, en poche. Et donc cet auteur qui a décidé de louer un appartement donc pendant quasiment 3 semaines pour recueillir les confidences des gens, mettant des affiches, des annonces un peu partout, donc au supermarché, au magasin, devant le lycée, devant la maison des associations, devant la médiathèque, et qui a recueilli les confidences des personnes, mais avec un bandeau sur les yeux pour que les gens pour qu'elles ne puissent pas voir les gens et que les gens aient confiance en elles. Et on en a fait ce superbe roman. Je vous recommande vraiment, vraiment ces deux livres. Voilà, des romans à lire cet été, bien au fond de son relax, tranquillement sous un arbre, à profiter effectivement du vent, et puis en éteignant le téléphone portable, en le mettant loin.
Ah oui, le téléphone portable.
Loin des mains. Voilà.
Faut le mettre en
plus qu'en pause. On l'oublie.
On le met en mode avion.
Voilà. Faire un peu comme moi quand Philippe Subercaz cherche à m'appeler, comme il me dit, le téléphone n'est jamais ouvert. Je suis un spécialiste, je pourrais donner des cours d'ailleurs à Radio Présence là-dessus.
C'est une catastrophe. C'est une catastrophe.
Vous confirmez, Philippe Subercaz.
Ah, mais C'est une catastrophe. Je me demande d'ailleurs pourquoi vous payez l'abonnement.
Ouais, exactement. Bon, voilà pour ces deux livres. Deux très beaux livres, Philippe Subercase. Ouais. Vraiment, des, ce que j'appelle, moi, des romans intimistes. Et donc, des romans où vous pénétrez au cœur de l'humanité. Très, très bien écrit. Et où le plaisir des mots également fait que, ben, lorsqu'on est tout seul, qu'on le lit à voix haute pour lire, mais aussi, aussi profiter de la beauté des mots, parce que la langue française est une langue, on le dira jamais assez, mais absolument formidable.
Eh bien, écoutez, c'est avec cette conclusion que se termine aujourd'hui cette chronique. D'ailleurs, je vois que vous rabattez votre ordinateur.
Le battant de mon ordinateur. Voilà. Et tout à fait.
On va pouvoir donc se retrouver avec grand plaisir
la semaine prochaine.
Et petit à petit, on arrive à la fin de cette saison.
Exact.
Voilà. Présence à Gourdon. 104.8
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La liturgie dans le mystère de l'Église au centre de la catéchèse du pape ce matin devant 25.